pays. Paysan. Paysage. Un tour au musée de la Chalosse. Installé dans un écrin de verdure sur le site du domaine de Carcher à Montfort-en-Chalosse, le musée de la Chalosse vous fait découvrir l'autre visage des Landes, celui plus vallonné, plus fertile que les Landes de pins au nord de l'Adour. Un pays qui, pour certains, est le véritable jardin secret des Landes, la Chalosse. Marqué par un paysage spécifique et une histoire singulière, la Chalosse se raconte à travers son musée, mais se découvre aussi au fil de ses territoires. Dans cette émission, tous les mois, nous revenons sur les thématiques liées au thème de l'exposition 2021 du musée de la Chalosse, des bars et des histoires. Avec la complicité des membres du comité de programmation et de l'équipe du musée, on évoque ensemble la Chalosse d'hier et d'aujourd'hui. En terre de Chalosse, la communauté de communes dispose d'un service enfance et jeunesse qui s'adresse aux enfants de 0 à 17 ans, et bien sûr aussi à leurs parents. Pour ce projet transversal autour du thème des cafés, l'accueil de loisirs de Montfort-en-Chalosse a proposé aux Pitchouns de se pencher sur un thème de leur âge très important pour les bistrots, s'amuser au café. Dans l'émission d'aujourd'hui, on se concentre donc sur les enfants au café. Un tour en Chalosse. Bonjour Stéphane Picard, vous êtes coordonnateur enfance-jeunesse de la communauté de communes Terre de Chalosse.
Bonjour.
Au bord du zinc. Alors, les enfants au café, ça n'est pas très ancien. C'est d'ailleurs très surveillé par l'État, qui interdit par exemple d'ouvrir des bistrots à proximité des écoles, et on comprend pourquoi. Alors, qu'est-ce qui a fait entrer la jeunesse au café ?
Ben sûrement le côté attractif des jeux qui se sont installés dans les cafés et donc qui ont été très attractifs pour des jeunes et des enfants qui venaient soit en famille, soit même après seuls ou dans le cadre de leur activité sportive.
Oui, c'est... alors on a vu ça dans une précédente émission sur le sport justement, et l'arrivée du sport a un peu transformé la clientèle pour faire des cafés des repères de jeunes, même si c'est plus récent. On sait qu'il y a certains cafés type café des sports qui sont très importants pour la population jeune dans un village, notamment dans les cafés ruraux. Alors justement, en parlant de jeux, quels sont les jeux plus traditionnels des cafés ? Parce que les cafés des sports, c'est récent. Là, on parle des clubs sportifs, on parle aussi des jeux type flipper, jeux d'arcade, mais ça, c'est aujourd'hui. Les jeux traditionnels des cafés, c'est quoi ?
C'est ça, en fait, les jeux vidéo, même après qui se sont installés plutôt, je suppose, en tout cas dans ma jeunesse, dans les années 80, 90, bien avant, les cafés étaient des endroits de jeux, et notamment de pas mal de jeux notamment traditionnels en bois, avec différentes compétences mobilisées, que ce soit des jeux d'adresse, des jeux de rapidité. Essentiellement des jeux quand même où on doit utiliser des palets, des jeux de pichenette, où comme je pense au palais anglais par exemple, qui est né le palais anglais sur un comptoir où on traçait des lignes et puis avec des pièces de monnaie il fallait se rapprocher et être des zones qui sont délimitées par plusieurs lignes et pour pouvoir remporter la partie. Après il y a beaucoup aussi de cafés qui ont à proximité par exemple un quillet ou d'autres types de d'infrastructures qui permettaient aux gens à la fois de venir échanger, discuter avec le copain, mais aussi de pouvoir pratiquer une activité. Le jeu, on l'attribue plutôt à l'enfance et à la jeunesse, mais c'est vrai que c'est le type de jeu vraiment qui mobilise l'intergénérationnel. On le voit quand on met en place des animations avec des jeux en bois traditionnels dans les rues ou lors de manifestations. On voit très vite qu'au début, les adultes viennent s'approcher pour expliquer à leurs enfants et à l'arrivée, c'est presque eux qui squattent davantage les jeux et qui s'amusent à utiliser, à lancer avec le doigt, donc la pichenette, le principe, on a un petit palet et on donne un coup avec le doigt pour pouvoir soit dégommer des objets, soit se rapprocher d'une zone, aller plus loin, moins loin, viser une cible, utiliser ou pas un élastique, ou après il y a des jeux de lancer, pas mal de jeux de lancer, notamment bon, les quilles de 6, les quilles au maillet, il y a les quilles de 9, mais il y a aussi tous les jeux, les palets bretons. Les palets vendéens qui sont des palets qui se jettent sur des planches et de moins connu mais qui existe aussi il y a le palet gascon c'est donc une seule quille avec trois pièces sur le dessus et on a deux grands palets en fonte et on doit lancer ces palets pour faire tomber la quille et les palets en fonte doivent être au plus près des trois jetons qui étaient sur la quille pour pouvoir emporter des points, voilà, par exemple.
D'accord. Sachant que c'est dans la recherche sur cette exposition, on a trouvé la trace de quilliers, la mise en place de quilliers, dès le XVIIIe siècle en Chalosse, même si ce n'est pas des équipements qui étaient propres à la Chalosse, parce que des quilliers, on sait que des jeux de quilles dans les cafés, on sait que du côté de Lyon, du côté du Doubs, on jouait aussi à tous ces jeux-là, mais c'est vrai qu'il y a des jeux un peu plus spécifiques, et oui, effectivement, le palais gascon, les quilles de neuf, qui sont un peu plus liés à notre territoire particulier. Et alors, j'ai une question piège, subsidiaire. Dans l'exposition, on a un jeu qui s'appelle le jeu de la grenouille, qui est exposé, et comment ça fonctionne ? Vous pouvez nous le décrire.
Alors, c'est un jeu, en effet, qui est assez symbolique et qu'on retrouve, alors qu'il n'est pas spécialement en effet du territoire. Donc, le principe, c'est qu'il y a en fait des zones à points, des trous. Alors, ça, c'est plutôt, en général, ça ressemble à une borne. Une borne, et sur le plateau du dessus, il y a différents trous, notamment une grenouille en fonte avec la bouche ouverte. Et aussi des arceaux, des trous, un clapet. Et le principe, c'est qu'on a des petits jetons, je sais pas la matière, mais enfin des petits jetons qu'on doit lancer à une certaine distance pour les faire rentrer dans les orifices, dans les différents trous, dans la bouche de la grenouille. Et ensuite, ces palets tombent dans des zones qui valent un certain nombre de points. Et ensuite, on récupère les palets dans ces zones qui se sont, dans lesquelles ils se sont mis. Et c'est un jeu qui est très ancien. Alors, je ne connais pas l'origine, mais c'est un jeu qui symbolise bien en fait l'esprit de ces jeux-là qui sont venus aussi avec les bars et les estaminets. Qui allie à la fois le côté convivial, le côté adresse, le côté jeu de lancer, et puis il y a cet aspect tradition matériaux qui est important. C'est du bois, de la fonte, c'est agréable à toucher, à regarder. Il y a un aspect vieilli de ces jeux-là qui sont très agréable et qui attire évidemment les plus anciens, mais aussi les plus jeunes, qui quittent volontiers les écrans et l'électronique pour pouvoir toucher de nouvelles matières et pour pouvoir s'amuser autrement et à plusieurs, et voire même tout seul pour battre son propre record. Quoi. Voilà.
Et ça m'amène justement à la question, on comprend l'objet du projet de l'accueil de loisirs autour de l'exposition qui consistait justement en ça, si je ne me trompe pas.
Exactement, c'est pour ça qu'au niveau de l'accueil de loisirs, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on a commencé à mettre en place, c'est la fabrication de jeux traditionnels en bois. Ça demande à la fois des compétences qui peuvent d'ailleurs se lier aussi à des compétences scolaires, qui peuvent faire le lien entre le côté accueil de loisirs périscolaires et des notions comme des mathématiques ou de la géométrie, puisqu'il faut mesurer, on ne crée pas un jeu comme ça, il faut savoir quel matériau on va utiliser, regarder un petit peu les plans, et ensuite se mettre au boulot. Alors les enfants adorent manipuler, y compris des perceuses, de poncer, imaginer et voir comment ces planches de bois, petit à petit, se transforment en un jeu qu'ils pourront à la fois utiliser dans le cadre de l'accueil de loisirs, mais aussi pouvoir utiliser dans diverses autres animations qu'on pourra ouvrir au public. C'est quelque chose qui motive et qui va à la fois dans le sens des objectifs pédagogiques que l'on peut avoir dans ce type d'accueil-là, qui donne du sens aussi à le lien entre un côté plus historique et ce que les enfants vivent aujourd'hui. Et comme je disais, en effet, c'est aussi un retour au toucher, au sens du toucher, à la matière, à apprécier, manipuler le bois, éventuellement se planter quelques échardes, mais se rendre compte qu'il faut, vernir, voir que le bois c'est un produit vivant, hein, donc comment ça se travaille, comment on le découpe, comment on va les assembler. Et ça aide aussi peut-être à comprendre finalement ce qui est autour de nous, comment c'est fabriqué en utilisant, en plus, si possible, du pain des Landes, bien sûr.
Bien sûr, voilà. Absolument. Même si la chalosse, c'est pas le pays du pain, mais bon.
la chalosse, c'est dans les Landes, ça va.
Absolument. Par rapport à ça, je voulais juste indiquer que pour cette exposition, le musée de la Chalosse a fait éditer un tourneur sur bois, un jeu de quilles de neuf pour à hauteur d'enfant, parce que je ne sais pas si tout le monde se représente bien ce que c'est un jeu de quilles de neuf. C'est des quilles qui sont assez hautes, assez lourdes, avec une boule en bois également assez lourde, comparable à une boule de bowling, donc est difficile à manipuler pour les petits. Et donc à cette occasion, le service des publics du musée a fait éditer ce matériel pédagogique-là, qui est expérimenté par les enfants de l'accueil de loisirs quand ils viennent visiter l'exposition. Mais merci beaucoup Stéphane Picard d'avoir fait entrer la jeunesse au café pour nous et de nous avoir expliqué tout ça. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait que pour les grands dans les cafés. Et donc on se retrouve le mois prochain pour une autre thématique.
Au revoir.
J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle, d'un blouson mecton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
Léo, qu'il y a de nouveau? Alors, Elvia, quoi de neuf autour de l'exposition ce mois-ci?
Eh bien, l'exposition est terminée depuis le 31 octobre dernier. Mais l'année prochaine, nous espérons pouvoir proposer une nouvelle programmation tout aussi intéressante. Peut-être, Marie, Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
En effet, pour 2022, la prochaine exposition sera celle des Migrant Farmers de Dorothea Lange. Alors, Dorothea Lange, c'est une photographe américaine qui a commencé sa carrière de photographe à New York avant de s'installer en 1918 à San Francisco, où elle ouvre un studio de portraits. Mais elle est très connue en tant que photographe documentaire car elle a été employée par la Farm Security Administration, qui a accompagné les fermiers les plus pauvres touchés par la grande crise de 1929. Les correspondances entre ces fermiers sans terre, déplacés, bien souvent ouvriers agricoles, mais déplacés par la crise au fil donc de cette période extrêmement difficile, viennent faire écho à la situation des métayers landais et toujours à cette question de la propriété de la terre et comment cela impacte les conditions de vie et de travail ailleurs qu'en Chalosse. Cette Farm Security Administration avait produit ainsi à peu près 270 000 documents et Dorothea Lange en a produit également avec Walker Evans et elle faisait partie de cette équipe de photographes. Elle sera la plus célèbre, notamment grâce à un portrait célébrissime qui sera présent dans l'exposition que l'on appelle la Migrant Mother. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette exposition en 2022, mais c'est une exposition qui fera date au musée de la Chalosse.
Merci Marie. Et nous vous rappelons que le musée reste accessible pour les groupes sur réservation durant l'hiver et l'on se retrouve en mars 2022 pour cette nouvelle saison.
Merci à Stéphane Picard, à Elvia, à Radio MDM, à Dichatz et à bientôt en Chalosse.